Merci. Merci Louis-Pierre. Chères sœurs, chers confrères, chers amis, bonsoir. Merci d'être là pour cette vigile de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes venus en pèlerins au sanctuaire du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, physiquement ou par les ondes. Bonsoir à ceux qui sont là, à Radio Espérance, ou qui écouteront aussi cette introduction à la prière via un lien Internet. Au passage, je remercie les techniciens et techniciennes qui rendent possible cette communion dans la prière. Nous avons répondu à l'invitation du Seigneur qui souhaite que les baptisés veillent et prient avec lui, en particulier en mémoire de cette heure qu'il a passée à Gethsémani, où il s'est offert à Dieu pour nous. Nous sommes là pour marquer ce soir la vigile de la fête de son Sacré-Cœur. C'est un privilège et une responsabilité d'intercession de commémorer ainsi l'amour infini de Jésus pour l'humanité entière et pour chacun, chacune, très personnellement. C'est ce que Jésus a voulu nous dire il y a 350 ans dans ses apparitions, révélant son Sacré-Cœur à la sœur Marguerite Marie. En cette année jubilaire, nous prions avec lui ce soir, selon son désir, pour concrétiser à travers les siècles la demande qu'il adressa à ses disciples de prier une heure avec lui. Et ce soir, nous portons notre attention d'abord sur le jubilé dans la Bible, ensuite dans la vie de l'Église. Le mot jubilé s'apparente à la jubilation qui, dans l'Écriture sainte, est un cri de victoire, une joie débordante, ce que les psaumes appellent un chant nouveau pour le Seigneur. Nous pourrions nous demander, mais comment se fait-il que nous puissions nous réjouir en cette veillée de prière, cette heure sainte, où nous commémorons l'agonie du Seigneur? Ne devons-nous pas plutôt nous attrister avec le Seigneur qui va à sa passion? Interrogeons l'Écriture sainte et l'histoire de l'Église. En recherchant l'éclairage biblique sur le jubilé, nous trouvons tout d'abord le livre du Lévitique, au chapitre 25. Puis, nous nous référons assez spontanément au chapitre 4 de Saint-Luc. L'un comme l'autre de ces livres témoigne de la libération de la terre et des êtres humains que souhaite le Seigneur. Là est sans doute la clé de notre énigme. Jésus, combattant au jardin des Oliviers, se prépare à offrir à l'humanité la liberté à laquelle l'humanité aspire depuis les temps immémoriaux qui remontent à l'exil, hors du jardin du paradis. Jésus offre à l'humanité la libération, qui désigne la rédemption, le salut. Le jubilé célèbre la libération que Jésus a opérée, et en ce qui nous concerne, il s'agit de la libération du péché. Le Seigneur, au jardin des Olives, lutte pour enlever le péché du monde. Il se prépare à son grand œuvre, accomplie le lendemain, lorsqu'il va vivre l'amour de son Père et de nous jusqu'au bout, pardonnant à ses ennemis, à ceux qui le mettent en croix. Ouvrons donc le chapitre 25 du Lévitique et voyons comment est proclamé là un repos des hommes et de la terre. La terre, tout d'abord. Le jubilé est une année super sabbatique. Après 7 fois 7 années, ce temps de repos pour la terre est donné tous les 7 ans. Après 6 ans de culture, la terre est laissée en friche, en broussaille. Les fils d'Israël ne sèment pas, du verbe semer, ils ne taillent pas la vigne cette année-là, l'année sabbatique. Ils ne moissonnent pas ce qui aura poussé tout seul. Peut-être reconnaîtrons-nous là une sagesse écologique, de nature à permettre à la terre de se régénérer. C'est là un heureux effet de ce qui est avant tout un sabbat pour le Seigneur, une manière de vivre le rapport à la terre comme à un don du Créateur, induisant une attitude réceptive à l'égard des fruits de la nature, sans voracité, sans rapacité, sans exploitation intensive, confiance, Dieu pourvoit. Voilà pour l'année sabbatique. Ensuite, à partir du verset 8, il est question du jubilé. Ce mot français dérivé du latin, jubilus, jubilum, jubileum, pourrait être lui-même calqué sur l'hébreu yobel, qui veut dire le bélier, puis la corne de bélier. Celle-ci peut devenir un instrument de musique lorsqu'elle est creusée, taillée. Au début de l'année jubilaire résonne en effet une sonnerie du cor pour une acclamation, terroir, qui concerne les personnes. Citation, « Vous déclarerez sainte la 50e année et vous proclamerez dans le pays libération pour tous les habitants. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. » En 50 ans, les biens ont circulé, certains ont été vendus. Les gens ont fait du bénéfice, ont acheté, d'autres ont fait des dettes et ont dû vendre des biens, jusqu'à parfois devoir se vendre eux-mêmes. C'était l'habitude dans l'Antiquité méditerranéenne, le débiteur insolvable pouvait être vendu comme esclave. Mais chez les Hébreux, après 49 ans, on remet les comptes à plat, ou les pendules à zéro, comme durant les années sabbatiques, dans l'année jubilaire, tous les 50 ans, pas de semailles, ni de moisson. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Que chacun retourne à sa propriété peut sembler étrange de nos jours, quand nous sommes habitués à un système de transmission des biens où un transfert de propriété est opéré pour toujours. Eh bien, dans le régime biblique du jubilé, il n'en va pas de même. D'une manière analogue à la souveraineté nationale qui permet à l'État d'ordonner une expropriation pour cause d'utilité publique, le nouveau propriétaire d'un bien ne devient pas le maître absolu du bien acquis. La terre, la maison, appartient à une famille. Après 50 ans, le bien retourne à la famille dont il vient. Ce retour en propriété originelle est aussi comme dans le régime d'une hypothèque. Vous pouvez acquérir cette maison, ce champ, mais le bien est grevé du droit de la famille à se voir restituer le bien lors du jubilé. Les terres et les maisons sont vendues avec une faculté de rachat, de retour. Normalement, la terre n'est pas vendue. Un étranger, la terre, pas question. Et une personne qui a dû vendre sa terre parce qu'elle était endettée, obligée de vendre, doit pouvoir retrouver son patrimoine familial, soit en remboursant elle-même ou un proche parent le prix de vente avant l'échéance du jubilé, soit après 49 ans, automatiquement. Dès lors, quand une terre est vendue, son prix est fixé par le vendeur en fonction des années qui restent avant la prochaine année jubilaire. Au verset 17, « Car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. » Le rapport à la terre et les rapports humains sont marqués par l'échéance d'une joie, d'un retour à la pleine harmonie. Lors du jubilé, les fils d'Israël, comme les biens, sont rendus à leur liberté. Un bien ou un être humain vendu pour payer ses dettes sont considérés comme prisonniers d'un riche étranger. Les voilà libérés. Or, la libération des captifs, nous l'avons en mémoire, s'accomplit avec la venue de Jésus-Christ. Faut-il nous étonner de trouver une mention de l'année jubilaire chez saint Luc, l'évangile où domine la joie? C'est au début du ministère public de Jésus, lorsqu'il vint à Nazareth, aussi appelé Nazara, où il avait été élevé. Jésus entra dans la synagogue et y prêcha pour la première fois, après avoir trouvé dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, un passage qui annonce sa venue. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Jésus a été baptisé peu auparavant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Une année d'accueil, écrit la Tobe. Une année accueillante, parce que Jésus lui-même est présent dans cette année. En lui, Dieu nous accueille. Et l'humanité accueille Dieu. Nous le savons, Jésus accorde une place à chacun, chacune, dans son plan messianique, dans sa mission de compassion. Croyons-nous vraiment que nous aussi, nous sommes inclus, que nous avons une place unique dans son cœur? Peut-être le croyons-nous un peu. Mais aujourd'hui, je vous invite à le croire beaucoup, en tout cas un peu plus, et à vous émerveiller de sa tendresse. Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant, à tes côtés, chaque jour, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Vous avez reconnu le kérigme condensé de la bonne nouvelle, l'essentiel de notre foi, tel que l'exprime le pape François dans La joie de l'Évangile, au numéro 164. Oui, chers amis, vivons en présence de Jésus. Avec lui, préparons pour Dieu la place qui lui revient en notre cœur, en notre vie, en notre société. Laissons-nous libérer par lui du péché, de l'injustice. Laissons sa lumière entrer dans notre vie. Recevons la douce force qui vient de son humilité. Accueillons le jubilé en nous. Accueillons la joie de Dieu. Jésus est lui-même, en personne, notre joie. Et nous-mêmes, par notre foi, notre espérance, notre persévérance, par notre prière qui nous rend présents à ses côtés, par notre désir de le suivre, d'adopter sa manière de faire, par notre amour, nous pouvons contribuer à sa joie, au Jardin des Olives aussi, en cette heure où il entre dans sa passion. Nous le savons, Jésus souffre dans ceux et celles qui pâtissent aujourd'hui des injustices. Ainsi, le jubilé trouve-t-il bien des enjeux dans l'humanité aujourd'hui, et l'Église les a fort à cœur, qui inclut aujourd'hui dans son enseignement social le refus de voir exploiter les populations des pays endettés, dont les gouvernements ont dû souscrire des prêts à des conditions souvent disproportionnées. L'apurement de la dette des pays du Sud fait partie des exigences de la justice internationale. Dans la société civile, il n'y a malheureusement pas d'échéance jubilaire. Et les États endettés restent à la merci des politiques monétaires ou financières qui leur sont imposées. Mais rien n'empêche les chrétiens, à la suite du pape François, en vue du jubilé ordinaire de 2025, de s'adresser, je cite sa bulle d'indiction du jubilé de 2025, puisse l'espérance remplir le cœur de ceux qui liront cette lettre, spes non confundit, l'espérance ne trompe pas. Le pape François nous dit que nous pouvons demander aux nations les plus riches de reconnaître la gravité de nombreuses décisions prises et faire en sorte, autant que nous pouvons, peser sur leurs décisions, qu'elles se décident à remettre les dettes des pays qui ne pourront jamais les rembourser. C'est une question de justice plus que de magnanimité. Fin de citation. Jamais il n'est trop tard pour aller de l'avant dans la réparation des injustices, dans le renoncement au comportement nocif. Il n'est jamais trop tard pour accueillir le don de Dieu. L'Église l'a compris au fil des siècles, en élaborant sa façon de vivre les jubilés, d'abord en apprenant de la tradition hébraïque l'importance de la conversion, comme dans Retour aux origines, la valeur du pèlerinage pour vivre en profondeur le pardon des péchés, dans le droit fil du livre de l'Exode, 23-17, trois fois par an, tous les hommes viendront voir la face du Maître, le Seigneur. Le pape François écrit à propos du jubilé, toujours dans Spes non confundit, l'espérance ne trompe pas. Nous avons besoin de moments forts, comme un jubilé, un pèlerinage, pour nourrir et fortifier l'espérance. Ce n'est pas un hasard, dit-il, si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui ou celle qui va à la recherche du sens de la vie. Le pèlerinage à pied est très propice à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel. Fin de citation. Mais revenons à l'histoire. Au XIIe siècle, selon l'école biblique de Troyes, le jubilé remonte aux victoires d'Abraham. Vous savez, Abraham, le patriarche, a combattu Il avait ses troupeaux, mais aussi son armée. Eh bien, à croire, on se disait, finalement, c'est Abraham, le grand pèlerin, qui est notre modèle pour les jubilés. Et Abraham, dit-on, considérait que tous les 50 ans, les planètes retrouvaient leur position initiale. Voilà, imagination. Tout le cosmos retrouve son harmonie. Dans l'histoire, les jubilés allaient aussi être marqués par l'aventure des croisades. Saint Bernard assimile l'indulgence de la croisade à un jubilé. Cependant, le jubilé est présenté aussi comme la joie intérieure, fruit de la contemplation, des exercices spirituels. La dimension sacramentelle du jubilé est élaborée avec au XIIe siècle la question des rapports entre pénitence intérieure, la componction, et pénitence extérieure, la satisfaction, la réparation des torts causés. C'est vrai, l'être humain n'est-il pas à la fois intérieur et extérieur? L'une ou l'autre de ces polarités marque tel ou tel courant, telle ou telle personne, telle ou telle nation ou culture. Un pèlerinage, avec la performance physique qu'il comporte, est l'occasion de grandir dans la complicité intérieure avec le Dieu d'amour, qui surgit à nouveau, qui jaillit dans le cœur du pèlerin petit à petit comme une source remise au jour. La confession apparaît comme le lieu où se scelle la démarche jubilaire. 50 ans après le martyre de saint Thomas Becket, le déplacement de ses reliques en 1220 fut marqué par un jubilé. Le saint allait intercéder. Joie! Il allait obtenir, pour les pèlerins, après la confession, la remise de la peine due au péché. Au XIIIe siècle, l'indulgence est définie par saint Thomas comme la rémission des peines temporelles. Le pape François dit aujourd'hui « résiduelles du péché ». Car même quand le pardon a été donné et qu'en conséquence les peines spirituelles du péché sont pulvérisées, alors même que nous sommes remis sur le chemin de la grâce, il peut subsister en notre âme, en notre psychisme, des reliquats des péchés même pardonnés, la crainte de recommencer, le regret et la tristesse d'avoir manqué une occasion d'aimer vraiment, la peur de représailles, la tension que nous laisse un tourment, l'angoisse de savoir d'autres encore dans la peine à cause de nous, tout cela peut disparaître si l'on se rend en pèlerinage à Jérusalem ou dans un lieu saint plus proche, comme la portioncule, la petite portion, la petite église d'Assise rénovée par saint François. Et nous sommes aujourd'hui à Paray-le-Monial, le sanctuaire du Sacré-Cœur. L'intercession de sainte Marguerite Marie, de saint Claude la Colombière, et la miséricorde divine assure à cette année de grâce une paix intérieure profonde dans la communion des saints. Celle-ci désigne non seulement des personnes qui ont été pleinement transformées par la grâce de Jésus, mais des choses saintes, la communion des saints. Bien sûr, il y a des saints qui intercèdent, mais nous nous référons au mérite de Jésus et des saints dont le pape peut disposer en permettant de les appliquer aux personnes décédées dont les âmes se trouvent au purgatoire, attendant, pour entrer dans la joie de Dieu, d'être pleinement purifiées. Cette démarche d'intercession, dont nous sommes responsables, est appelée le suffrage, au sens où elle recommande une âme du purgatoire, à la bonté de Dieu. L'intercession invoque pour elle, en lui appliquant, les mérites de Jésus-Christ, ceux des saints, et incidemment les nôtres. C'est le fruit de notre démarche jubilaire. Le jubilé, dans l'histoire de l'Église, est assimilé à l'indulgence. Alors, il est parfois reproché à l'indulgence, d'une part, de s'exercer de manière automatique, d'autre part, de relever d'une approche commerciale ou comptable, ou encore de caricaturer la religion en une mièvrerie. S'il en était ainsi, l'Église l'aurait certainement abandonné, selon la suggestion fraternelle, pressante, de Luther. Mais est-il adéquat de parler de mièvrerie quand il s'agit de notre salut et de notre responsabilité d'intercéder pour les défunts? La demande d'indulgence s'inscrit dans une relation de confiance avec le Dieu Sauveur. Elle est posée dans un acte de foi, d'amour, posée dans un dialogue avec le Dieu de l'Alliance, où notre assurance, notre profonde conviction du salut des enfants de Dieu, à qui Dieu donne sa grâce, se fonde sur la promesse même de Dieu, l'année de grâce qu'il a proclamée et instituée dès la première alliance. Revenons aux prémices du jubilé catholique qui remonte à Saint Bernard au XIIe siècle. Le premier, Bernard, qualifia le jubilé lié à la croisade en disant que c'est l'indulgence. Voilà. C'est une invocation de la miséricorde, analogue à celle qu'octroie l'aumônier militaire dans l'absolution collective qui précède un assaut. Mettons dans la mièvrerie, je ne vois pas, hein. Le souci jubilaire pour le salut éternel des personnes est bien loin de là, bien loin d'être mesquin. L'indulgence s'adresse à des hommes prêts au sacrifice de leur vie. Et bien sûr, aujourd'hui, nous remercions les générations qui nous précèdent d'avoir libéré l'Europe du totalitarisme hitlérien. En ce 6 juin, 80e anniversaire du débarquement. L'année 1300 fut celle du premier jubilé de l'incarnation. La chute de Jérusalem en 1187 rendait difficile le pèlerinage à Jérusalem. Dès lors, les fidèles furent invités à se rendre à Rome, pour bénéficier de l'indulgence plénière accordée auparavant aux croisés. De grandes foules affluèrent donc vers Rome avec l'espérance de la rémission des péchés. L'indulgence plénière, appelée aussi plénissime, est totale, spirituelle et temporelle. Elle efface toute peine, toute tristesse, toute angoisse, et ne laisse place qu'à la joie. Elle fut accordée pour la première fois par le pape Boniface VIII en 1300. Donc ce fut là la première année sainte ou jubilée. Au sens catholique, le jubilé consiste en l'indulgence accordée par le pape à des conditions qu'il définit, traditionnellement être en état de grâce via la confession et l'absolution, la communion sacramentelle, une action solidaire et le pèlerinage à Rome qui implique la visite des basiliques majeures. Boniface VIII étendit l'indulgence de 1300 à toutes les années séculaires à venir. Les plus âgés d'entre nous, j'en fais partie, gardent sans doute en mémoire le grand jubilé de l'an 2000 que Saint Jean-Paul II a préparé avec tant de ferveur, soulignant l'importance de sanctifier le temps. Jean-Paul II nous a rappelé l'enseignement lumineux de Paul VI, pour qui l'indulgence est un nom de Jésus-Christ. C'est lui, en personne, notre indulgence, comme il est la miséricorde, la justice. Le Seigneur est notre justice, dit Jérémie. Nous étions donc en 1300. 49 ans plus tard, le pape Clément VI réduit à 50 ans la périodicité des années saintes. En 1470, Paul II fixe cette périodicité à 25 ans en vue du jubilé de 1475. Le but des papes qui élaborent ces réformes est sans doute de permettre à chaque génération de vivre un jubilé. L'histoire a connu aussi des jubilés particuliers à Cantorbéry, au Puy, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Lyon, en l'honneur de saint Thomas Becket, en l'honneur de l'édit de Milan, du baptême de Clovis. Nous pourrions penser aux années mariales, qui ne sont cependant pas considérées comme des jubilés proprement dits. Un jubilé engage l'ouverture et la fermeture de la porte sainte, signe de la médiation de Jésus-Christ. Le jubilé est défini par une bulle d'indiction, traditionnellement promulguée en la fête de l'Ascension. Il ouvre un temps de renouvellement spirituel, un effort de plus grande fidélité à l'Évangile, et par là de progrès dans la justice et la charité. Ainsi, dans son article « Jubilé », le dictionnaire de spiritualité dont je m'inspire cite ainsi le saint pape Paul VI quand il annonçait le jubilé de 1975 en disant « Nous avons besoin avant tout de rétablir des rapports authentiques, vivants et heureux avec Dieu et d'être réconciliés avec lui dans l'humilité et dans l'amour, afin que, à partir de cette harmonie première et fondamentale, tout l'ensemble de notre expérience exprime une exigence et acquiert une vertu de réconciliation dans la charité et la justice avec tous les hommes auxquels nous reconnaissons aussitôt le titre rénovateur de frères. » Fin de citation. C'est dire l'ouverture sociale du jubilé. Le cardinal Aveline le présentera après-demain. Et en conclusion, nous pouvons rester sur ce lien entre ferveur et solidarité. Nous avons eu aujourd'hui l'évangile du double commandement, aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Gardons cela en mémoire au moment où nous allons commencer à confier à Jésus Eucharistie les personnes qui nous tiennent à cœur, nous recommander les uns les autres à la miséricorde divine. Rappelons-nous cette dimension large des jubilés, même médiévaux, comme celui de saint Thomas Becket, pour lequel Honorius III exhortait les fidèles de Cantorbéry au XIIIe siècle, je cite, à aller de l'avant, au-devant de leur saint martyr et patron, dans la paix et la concorde, qu'on conservant le lien de la charité, la conscience lavée de tout péché et ornée de bonnes œuvres. Aujourd'hui, comme fidèles, comme pèlerins du sanctuaire du Sacré-Cœur, nous sommes invités à vivre ce lien entre ferveur et solidarité avec ceux et celles en qui Jésus-Christ aujourd'hui souffre quand ils sont victimes d'injustice. Et le pape François nous y aide quand il donne à l'Église une dimension missionnaire dont son réseau de prières est porteuse et porteur dans le chemin du cœur qui est proposé aux pèlerins au sanctuaire. Ce mois-ci, nous confions à Dieu ceux qui fuient leur pays. Prions avec le pape François pour que les migrants qui fuient la guerre ou la faim et sont contraints à des voyages pleins de dangers et de violences puissent trouver l'hospitalité ainsi que de nouvelles opportunités de vie dans les pays d'accueil. Accueille, Seigneur, notre prière et notre disponibilité pour prendre notre part dans ta mission de compassion. Amen.